Chers amis, nous allons commencer un cycle sur l'homme. Vaste question, n'est-ce pas? Le roi David s'exclamait déjà à l'époque, dans le psaume 8, « Qu'est-ce que l'homme, Seigneur, pour que tu penses à lui? Le fils d'Adam, que tu en prennes souci. » Et dans cette question, on perçoit à la fois l'étonnement et l'émerveillement. En effet, l'homme, au regard de la grandeur de Dieu, au regard même de l'immensité de la création, c'est une poussière. Un petit être vivant dont la durée de vie ne dépasse pas quelques décennies, comme l'exprime encore le psaume 90. Le nombre de nos années, 70, 80 pour les plus vigoureux. Leur plus grand nombre n'est que peine et misère. Elles s'enfuient, nous nous envolons. Et pourtant le roi David reste dans l'étonnement. Ce petit être fragile, ce fils d'Adam né de la glaise, eh bien Dieu l'a couronné de gloire et d'honneur. Il l'a fait à peine moindre qu'un dieu, comme il est encore dit dans le psaume 8. Et David continue comme extasié. « Ce fils d'Adam, Seigneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds, les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. » Ce petit bout de glaise qu'est l'homme, non seulement Dieu l'a fait souverain de la terre, il lui a donné la domination sur tout, mais encore il pense à lui. Dieu se soucie de l'homme, et même Dieu le désire, le cherche, l'espère. Dans le psaume 14, David constate ce grand mystère. « Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam pour voir s'il en est un qui cherche Dieu. » Comme si Dieu était énamouré de sa créature et qu'il attendait anxieux une attention de l'homme à son égard. Il se tient à la porte et il frappe, désirant que l'homme lui réponde, se tourne vers lui et réponde à son amour. Comment ne pas partager l'action de grâce de David? Comment ne pas s'exclamer avec lui « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre !» Oui, la grandeur de Dieu se manifeste dans son dessein bienveillant et l'extraordinaire bonté de son cœur. Lui qui est l'infiniment parfait et bienheureux a librement créé du limon de la terre l'homme, et ceci dans l'unique but de le faire participer à sa vie bienheureuse. Et pour que cela soit possible, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, comme il est dit dans la Genèse au chapitre 1er. Et ainsi Dieu a rendu l'homme capable de Dieu. L'homme est donc image de Dieu et capacité de Dieu. Quelle dignité! Quelle grandeur Dieu n'a-t-il pas déposée en l'homme, cet être pourtant tiré de la glaise? C'est étonnant, n'est-ce pas? Grandeur et misère de l'homme, aurait dit Pascal. Lui-même, des siècles après David, avait comme reformulé la question du psaume. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant. Et cela ne doit pas nous étonner si on considère ce qui est dit de la création de l'homme dans la Genèse au chapitre 2. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant, c'est-à-dire un être avec qui Dieu va pouvoir entrer en dialogue. Autrement dit, l'homme dans sa propre nature unit le monde matériel et le monde spirituel. Son corps est pétri de la glaise, mais Dieu a insufflé en lui une haleine de vie. Il lui a donné une âme spirituelle qui fait de lui un être vivant, humain, capable de Dieu, capable de le connaître et de l'aimer. C'est toute la personne humaine qui est voulue par Dieu. Il n'y a pas d'un côté un corps de poussière sans dignité qui ne serait que matière et voué à la destruction, et de l'autre une âme spirituelle noble et destinée à l'immortalité. Non, ça c'est le dualisme cartésien. L'esprit et la matière dans l'homme ne sont pas deux natures unies, mais leur union forme une unique nature, une unique substance. La personne humaine. Et ceci parce que le corps est d'emblée humain, parce qu'il est d'emblée animé par une âme humaine et spirituelle qui est comme sa forme, d'où leur unité substantielle. C'est donc une hérésie, par exemple, de parler d'embryon humain comme s'il s'agissait juste d'un amas de cellules, autrement dit un petit tas de matière organique sans lien avec l'humanité et qu'on pourrait de ce fait avorter sans état d'âme. Non, dès la conception de l'embryon, une âme spirituelle est créée par Dieu et lui est donnée par Dieu. Cette âme informe le corps de cet embryon et fait de ce corps un corps humain. Et donc ce tout petit enfant est déjà une personne humaine destinée à la gloire, puisque l'âme qu'il a reçue est immortelle et elle s'unira de nouveau à son corps lors de la résurrection finale. Voyez donc la dignité du corps uni à l'âme qui participe de l'image de Dieu. C'est bien la personne humaine tout entière qui est destinée à devenir dans le corps du Christ le temple de l'Esprit. Dans Gaudium et Spes, numéro 14, nous pouvons lire « Corps et âme, mais vraiment un. L'homme dans sa condition corporelle rassemble en lui-même les éléments du monde matériel qui trouvent ainsi en lui leur sommet et peuvent librement louer leur Créateur. Il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle, mais au contraire il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et doit ressusciter au dernier jour. » Seulement dans l'homme, il y a une hiérarchie. Quand le Seigneur dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance », aussitôt il ajoute qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie deux choses. Premièrement ceci, de même que Dieu régit avec puissance et sagesse l'univers, de même l'homme créé à l'image de Dieu a vocation à régir la terre. Il a une dignité de nature supérieure à tous les autres êtres vivants. Mais cela ne fait pas de lui un despote. Il est appelé à régir ce monde selon une souveraineté ordonnée au bien commun, selon la sagesse de Dieu. Il ne s'agit donc pas de saccager la création, mais d'honorer le don de Dieu, toute cette création que Dieu a donnée à l'homme pour son bien, de prendre soin de la création et des créatures et de son propre corps. Deuxièmement, Gaudium et Spes nous a dit que l'homme par son corps rassemble en lui-même les éléments du monde matériel. Autrement dit, il intègre en lui-même tout ce qui appartient au monde matériel, au monde organique, au monde des vivants. Donc, la domination qu'il doit exercer sur les poissons, les oiseaux, les bestiaux, les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre, c'est une image de la domination qu'il doit exercer sur lui-même, sur tout ce qui peut s'agiter en lui de passion, de désir, de sentiment, d'humeur. Comme l'homme a reçu la domination sur la terre et tout ce qui s'y trouve, il a reçu aussi le pouvoir de se dominer lui-même, de dominer et d'ordonner au bien tout ce qui en lui relève de la chair, des passions. D'ailleurs, dans le chapitre 4, nous avons la confirmation de ceci. Quand Caïn s'est renfrogné car son offrande n'a pas été agréée par Dieu, que lui dit le Seigneur? Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas tapis à la porte comme une bête qui te convoite? À toi de dominer sur lui. Dieu rappelle à Caïn qu'il a reçu le pouvoir de dominer sur tout ce qui s'agite en lui, ses passions, qui, telles des bêtes sauvages, menacent son humanité, menacent l'image de Dieu qui est en lui. Le Seigneur rappelle à Caïn sa très haute dignité et lui rappelle que par son âme, il peut et doit se dominer tout entier et non pas vivre selon ses instincts, ses passions, ses humeurs, ce qui le rendrait esclave. Oui, l'homme a été créé libre, doté d'une âme spirituelle qui le rend capable de connaître Dieu par son intelligence, de l'aimer par sa volonté et de choisir le bien. Autrement dit, Dieu a tout créé pour l'homme, en vue de l'homme. Mais l'homme a été créé pour servir et aimer Dieu, en retour d'amour, on pourrait dire, et pour offrir à Dieu toute la création. On pourrait même reformuler ainsi. Librement, Dieu nous a créés par amour. Et nous avons été créés libres pour aimer, car il n'y a pas d'amour vrai sans liberté. Et pour que par cet amour, nous participions à l'éternelle beauté de Dieu. Saint Jean Chrysostome, dans un sermon sur la Genèse, écrivait « Quel est donc l'être qui va venir à l'existence entouré d'une telle considération? C'est l'homme, grande et admirable figure vivante, plus précieux aux yeux de Dieu que la création tout entière. C'est l'homme, c'est pour lui qu'existe le ciel et la terre et la mer et la totalité de la création. Et c'est à son salut que Dieu a attaché tant d'importance qu'il n'a même pas épargné son Fils unique pour lui. Car Dieu n'a eu de cesse de tout mettre en œuvre pour faire monter l'homme jusqu'à lui et le faire asseoir à sa droite. Et pour cela, Dieu qui est Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint, a inscrit en l'homme son image, en lui donnant une âme spirituelle dotée de trois puissances, la mémoire, l'intelligence et la volonté. Nous retrouvons cette tripartition de l'âme comme reflet de la Trinité en l'homme, chez saint Augustin, chez saint Thomas d'Aquin, entre autres, et chez sainte Catherine de Sienne. On pourrait dire que Dieu, un et trine, a donné à l'homme cette dot d'une âme à la fois une et composée de trois puissances, comme en Dieu il y a trois personnes. Écoutons sainte Catherine de Sienne s'adressant à Dieu dans son livre Le Dialogue au chapitre 13. « Pour cela tu as donné à l'homme la mémoire, pour qu'il garde le souvenir de tes bienfaits. Il participe ainsi à ta puissance, Père éternel. Et tu lui as donné l'intelligence pour qu'il connaisse en la voyant ta bonté et participe à la sagesse de ton Fils unique. Et tu lui as donné la volonté pour qu'il puisse aimer ce que l'intelligence a vu et connu de ta vérité, participant ainsi à la clémence de l'Esprit-Saint. Ainsi, nous voyons que la mémoire qui a pour fonction de conserver tous les bienfaits de Dieu est image et participation du Père éternel. Or, au Père éternel est attribuée par appropriation la puissance par laquelle il a créé et sauvé l'homme et le maintient dans l'existence. Alors on pourrait se demander quel lien entre la mémoire et la puissance attribuée au Père. Eh bien, comme le Père a le pouvoir de garder en lui toutes les choses créées, qu'il les conserve dans l'existence par sa providence ou sa puissance, de même, l'homme a le pouvoir de conserver dans sa mémoire tout ce que l'intelligence connaît des bienfaits de Dieu. Si la mémoire comme faculté de l'âme humaine est image du Père, l'intelligence, elle, est image du Fils et participation à sa sagesse. Au Fils est attribuée par appropriation la sagesse. Et ainsi, l'intelligence est donnée à l'homme pour qu'il connaisse Dieu et les bienfaits de son amour miséricordieux. Et cette intelligence est mue par le désir, c'est-à-dire la volonté, de connaître Dieu pour l'aimer. Quant à la volonté, justement, elle est l'image de l'Esprit-Saint et participation à sa clémence, à son amour, qui est attribuée par appropriation à l'Esprit-Saint. Par la volonté, l'homme ressemble et s'unit à l'Esprit-Saint qui est l'amour entre le Père et le Fils. Elle est donnée à l'homme pour aimer ce que par l'intelligence il a vu et connu. Elle permet donc à l'homme d'aimer Dieu en unissant sa volonté à la sienne. Pour Catherine, ce sont donc ces trois puissances qui ouvrent l'homme au mystère de Dieu et le rend capable de Dieu. L'intelligence le rend capable de connaître Dieu, la volonté de l'aimer et la mémoire de se souvenir de ses bienfaits. Voici donc la merveille de l'image de Dieu inscrite dans l'âme de l'homme au moment de sa création. Seulement, il y a eu le péché originel qui est venu mettre le désordre dans l'âme humaine et par suite dans toute la création. Est-ce à dire que l'image divine en l'homme a été perdue? Non, heureusement. Elle est bien toujours là, mais elle a été déformée, abîmée. L'homme qui était naturellement tourné vers Dieu comme vers son bien et donc sa finalité, s'en est détourné pour se préférer. Il a abusé de sa liberté sous l'instigation du diable qui lui a suggéré la désobéissance, voulant l'entraîner dans sa propre rébellion contre Dieu. En fait, l'homme a refusé de recevoir de Dieu les normes morales qui règlent l'usage de la liberté. Il a laissé mourir dans son cœur la confiance envers son Créateur. Il a douté de sa bonté, et alors il s'est préféré lui-même à Dieu, et par là même, il a méprisé Dieu. Le catéchisme de l'Église catholique évoque bien ce cataclysme destructeur au numéro 398. Constitué dans un état de sainteté, l'homme était destiné à être pleinement divinisé par Dieu dans la gloire. Mais par la séduction du diable, il a voulu être comme Dieu, mais sans Dieu et avant Dieu et non pas selon Dieu. Et les conséquences sont dramatiques. Adam et Ève perdent immédiatement la grâce de la sainteté originelle. Désormais, ils ont peur de Dieu car ils en ont une image mensongère, celle d'un Dieu jaloux de ses prérogatives. Et toute l'harmonie dans laquelle ils étaient établis grâce à la justice originelle est détruite. La maîtrise des facultés spirituelles de l'âme sur le corps est brisée, ce qui faisait dire à saint Paul « Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. » Les facultés de l'âme, elles, n'agissent plus entre elles d'une manière ordonnée. L'intelligence se détourne de Dieu, la volonté court après ses passions, la mémoire se sature des choses du monde. La convoitise et la domination entrent dans les relations entre hommes et femmes, et l'harmonie avec la création est aussi rompue. Les hommes perdent leur souveraineté sur les animaux, les bêtes sauvages. En fait, à partir du moment où l'homme n'est plus soumis à Dieu, il entre en anarchie intérieure et il perd la souveraineté sur la création. Et la mort fait son entrée dans l'histoire de l'humanité. Et nous, eh bien, nous avons hérité de cette nature humaine déchue. Cependant, et c'est important de garder cela en mémoire, la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est seulement blessée dans ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, inclinée au péché, ce qu'on appelle la concupiscence, soumise à la souffrance et à l'empire de la mort. Mais l'homme garde son libre arbitre, et il peut ainsi retrouver quelque chose de sa splendeur première. Non pas par ses propres forces, car il en est devenu incapable, mais par la grâce de Dieu. En effet, le baptême comme bain de régénération donne la vie de la grâce du Christ et vient donc effacer le péché originel et rendre à l'homme la possibilité de se tourner vers Dieu. Seulement ce qui était simple avant le péché originel devient désormais le fruit d'un véritable combat spirituel. Et ce combat spirituel, ce n'est pas de devenir fort et capable de Dieu, mais c'est au contraire de reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu. « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire », a dit Jésus. Notre combat spirituel est celui de l'humilité devant Dieu. C'est de nous reconnaître pauvres et petits, mendiants de la grâce de Dieu, pour être réintroduits dans la communion avec notre Père du ciel, par la médiation du Fils, dans l'Esprit. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas abandonné l'homme au pouvoir de la mort et au pouvoir de Satan. Il a envoyé son Fils qui, par son précieux sang, a pouvoir de nous laver, de nous purifier, de nous régénérer, de restaurer en nous son effigie, son image. Sainte Catherine de Sienne en appelle ainsi à Dieu. « Tu nous as créés de rien, donc maintenant que nous sommes, fais-nous miséricorde et refais les vases que tu as créés et formés à ton image et à ta ressemblance et reforme-les dans ta grâce, dans ta miséricorde et dans le sang de ton Fils. » Dieu a donc envoyé son Fils comme le grand médecin de l'humanité tombée dans la boue du péché. Et le Fils, par sa passion, par son obéissance d'amour et par le baptême qui en est le fruit pour nous, a rétabli en l'homme son image en lui donnant à nouveau en plénitude, avec sa noblesse originelle et sa grandeur, son aptitude à aimer par le don de la foi. Autrement dit, le baptême rend à l'homme la ressemblance divine perdue à cause du péché en l'ouvrant au salut. Nous avions vu tout à l'heure l'harmonie qui régnait entre les trois facultés de l'âme, la mémoire, l'intelligence et la volonté à l'origine. Seulement le péché a entraîné une disharmonie et désormais il faut que la volonté soit illuminée par l'intellect pour mortifier la volonté sensitive qui incline au mal. Car malheureusement, la volonté qui nous rend participants de l'Esprit Saint, c'est-à-dire de l'amour, est bien souvent attirée par des biens frelatés, des ersatz de biens, des illusions, des choses de peu d'importance. Et elle se fourvoie. Elle se préfère car elle n'est plus ordonnée à son bien véritable qui est Dieu. Et pour renforcer la volonté spirituelle qui ouvre à l'amour de Dieu, l'intelligence doit être constamment alimentée afin d'illuminer l'homme et lui faire reconnaître les bienfaits de Dieu contenus dans la mémoire. Toute cette perception de Catherine peut vous sembler réflexion de théologien, mais en fait l'enjeu pratique est important. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on parle souvent de l'homme comme d'un être doué d'intelligence et de volonté, ce qui est vrai. Mais on oublie très souvent de mentionner la mémoire, comme si cette faculté n'avait pas beaucoup d'importance dans la vie spirituelle. Parce qu'on pourra faire bien des efforts pour connaître Dieu, pour vouloir ce que Dieu veut. Mais si notre mémoire n'est pas nourrie des choses de Dieu, l'intelligence sera comme sans appui pour sa réflexion. Et pire, si la mémoire est saturée des séries de Netflix, des jeux vidéo, des soucis de ce monde, des mondanités, des contenus profanes voire mauvais d'Internet, elle n'aura rien de bon à proposer à l'intelligence pour susciter le désir de connaître Dieu, et la volonté ira chercher ailleurs ce qui peut la combler. Autrement dit, nous devons être vigilants, pas seulement en ce qui concerne notre intelligence et notre volonté, mais aussi en ce qui concerne notre mémoire. De quoi la remplissons-nous ? Des bienfaits de Dieu ou des illusions de ce monde ? Qu'engrangeons-nous dans le grenier de notre mémoire ? La parole de Dieu qui donne lumière par la mendication ou les divertissements souvent abrutissants ? Écoutons attentivement le sage conseil de Catherine dans une lettre qu'elle écrivait à un de ses amis religieux. Mais c'est valable pour nous aussi. « Mon très cher et révérend Père dans le Christ, moi, Catherine, la servante et l'esclave des serviteurs de Jésus-Christ, je vous écris dans son précieux sang, avec le désir de vous voir baignée et noyée dans le sang du Fils de Dieu. Je vois que quand la mémoire se remplit du sang de Jésus crucifié, c'est-à-dire la mémoire se nourrit de la passion du Christ, aussitôt l'intelligence se met à regarder dans la mémoire, où elle trouve ce sang. Et qu'est-ce qu'elle y découvre ? Elle voit le feu de la charité divine, l'amour ineffable mêlé et pétri avec le sang, parce qu'il a été répandu et donné pour nous par amour. Et qu'est-ce qui se passe ensuite ? La volonté suit l'intelligence. Elle aime et elle désire ce que l'intelligence a vu, et son amour s'unit aussitôt à l'amour de Jésus crucifié qui se trouve dans le sang. Alors l'âme se noie dans le sang, ce sang qui est pure révélation de l'amour divin. C'est-à-dire qu'elle noie et tue toute sa volonté mauvaise et sensuelle qui se révolte souvent contre son Créateur. Elle se dépouille de tout amour propre et se revêt de l'éternelle volonté de Dieu qu'elle trouve et goûte dans le sang, parce que le sang lui montre que Dieu ne veut autre chose que sa sanctification. S'il avait voulu autre chose, il ne nous aurait pas donné le Verbe, son Fils unique. Elle voit tout ce que Dieu permet dans la vie de l'homme. Il ne le permet pas pour une autre fin que sa sanctification. Tout ce qui a l'être vient de Dieu et rien de ce qui arrive. Les tribulations, les tentations, les injures, les violences qu'elle souffre ne peuvent la troubler. Mais elle s'en réjouit et les reçoit avec respect en pensant qu'elles viennent de Dieu et qu'elles nous sont données pour notre bien, par amour et non par haine. Vous remarquerez dans cette lettre que tout part de la mémoire. Il s'agit de saturer la mémoire du sang de Jésus-Christ, autrement dit de l'amour de Dieu, de ses bienfaits pour l'homme. Par la mendication de la parole, par le souvenir des bienfaits de Dieu à notre égard, par la rumination des mystères du Christ dans la prière du chapelet, par exemple. Et alors l'intelligence regarde dans la mémoire, et qu'est-ce qu'elle voit ? Le sang, c'est-à-dire l'amour du Christ. Elle y reconnaît toute la bonté de Dieu. Alors la volonté à son tour suit l'intelligence et devant tant d'amour, elle prend feu. Elle désire ce que l'intelligence a vu et connu de l'ineffable amour de Dieu. Et elle s'unit à l'amour de Jésus-Christ crucifié, cet amour qui est dans le sang. Et conséquence pratique, emportée par le feu de la charité, elle y noie son amour propre et elle comprend que tout ce que Dieu fait est amour. Tout ce qui permet de souffrance dans sa vie est en vue de sa sanctification. Et au lieu de râler, eh bien, elle s'en réjouit. Et vous remarquez qu'il y a là une véritable dynamique du désir. Mémoire, intelligence et volonté, bien que remplissant des fonctions différentes, sont pourtant unifiées dans le désir d'aimer, placé par le Créateur dans le cœur de chaque homme. Et ce désir de l'homme vers son Dieu, ce désir ravivé par la grâce du baptême est en fait réponse au désir premier de Dieu envers l'homme. Dieu désire la communion avec l'homme parce qu'il l'aime, bien plus que l'homme ne désire Dieu. La sanctification est donc un ajustement et une rencontre de ces deux désirs. La rencontre entre le « j'ai soif » de Dieu sur la croix et le « j'ai soif » de l'homme qui ne peut trouver sa plénitude et son rassasiement qu'en Dieu, comme l'avait si bien dit saint Augustin. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Je trouve que c'est beau de voir les choses ainsi. Tout est une question de désir. Dieu veut réveiller notre désir de lui, non pour lui-même, mais pour avoir la joie de nous combler de lui. La Bible est pleine de ces appels. Souvenons-nous des paroles de Jésus à la Samaritaine. « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et Jésus au peuple, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Dans l'Apocalypse, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et encore, « Que l'homme assoiffé vienne, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. » Le Seigneur voudrait tant se donner à nous, il voudrait tant nous abreuver. Mais, et c'est là la grande douleur de son cœur, il y en a si peu qui aient vraiment soif de lui, qui le désirent. Il voudrait se donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Renouvelons donc notre désir de lui. Et pour cela, resaturons notre mémoire de ses bienfaits. Alors l'intelligence désirera à nouveau connaître Dieu et notre volonté s'enflammera d'amour pour venir à la source, boire les eaux vives de la grâce et répondre à la bonté de Dieu qui veut se donner. Dieu désire nous rendre participants de sa puissance, de sa sagesse et de son amour, mais nous le désirons-nous vraiment? Et pourtant, quel fruit de bénédiction en nos vies, si attisant notre soif, nous courons vers les eaux vives de la grâce que le Seigneur brûle de nous donner. Voyez, Dieu a inscrit son image en nous. Il nous a donné ainsi les moyens de retenir en notre mémoire, de discerner avec notre intelligence et d'aimer par notre volonté. Et ce faisant, il a ouvert en nos cœurs le chemin de la sanctification-divinisation pour notre plus grand bonheur. Répondons donc à son désir par notre désir de lui. Qu'est-ce que l'homme? Essentiellement, l'homme est à la fois un être de chair, un animal, pourrait-on dire avec Aristote, et en même temps un être rationnel. C'est pourquoi Aristote disait de l'homme qu'il est un animal rationnel. La différence spécifique de l'homme par rapport à l'animal, c'est qu'il est doté d'une âme rationnelle grâce à laquelle il pense, il parle, il s'émerveille devant le beau, le vrai, le bien. Grâce à laquelle aussi il n'agit pas selon ses instincts. Il est en effet en capacité de dominer ses sens par sa volonté. L'homme est donc un être libre et qui a la capacité de se conduire librement selon la vérité que l'intelligence lui donne à connaître. Vous avez toujours le choix, n'est-ce pas, de manger toute la tablette de chocolat ou de n'en manger qu'un carré. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas facile, c'est vrai, mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Car vous avez une intelligence qui vous dit que vous risquez la crise de foie si vous mangez toute la tablette. Et vous avez une volonté pour dire « Non, stop, ça suffit ». Cela, un animal ne peut pas le faire. Lui, il est guidé par ses appétits, ses instincts. Librement donc, l'homme peut se conduire selon un choix raisonné. Et librement aussi, il peut reconnaître en Dieu son bien le plus excellent, et donc se rendre disponible à Dieu, le chercher et l'aimer. Et cela tient à une unique cause. Il a été créé à l'image et ressemblance de Dieu. Cela, ce n'est pas la philosophie qui nous le dit, mais la révélation biblique. Dieu a inscrit son image dans l'homme. Il l'a marqué de son sceau divin. Et nous avions vu la dernière fois, notamment avec Sainte Catherine de Sienne, que cette image était particulièrement présente dans l'âme de l'homme, par ses trois facultés que sont la mémoire, l'intelligence et la volonté. Et ces trois facultés rendent l'homme capable de Dieu, capable d'entrer en relation, en participation même de la puissance du Père, de la sagesse du Fils et de l'amour du Saint-Esprit, et ainsi de se laisser diviniser. Nous ne nous extasierons jamais assez de la grandeur de l'homme, même si cette grandeur est portée dans le vase d'argile d'une chair humaine sujette à la fragilité et à la pauvreté, surtout depuis le péché originel. Mais nous avions vu aussi que notre Père du Ciel avait envoyé son Fils pour nous racheter de la mort, du péché, de l'emprise de Satan, et que par la grâce de Dieu, nous pouvions retrouver quelque chose de notre splendeur première et vivre à nouveau une communion d'amour avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement image de Dieu, mais nous sommes appelés à devenir fils et filles de Dieu en Jésus-Christ. Seulement pour cela, nous devons vivre d'une manière belle et bonne, selon la dignité que nous avons reçue. Notre liberté est sollicitée, c'est notre responsabilité qui est en jeu. Alors on pourrait être effrayé par cette liberté. Comment être sûr de faire les bons choix? Comment s'orienter pour choisir? Selon quels critères? Sommes-nous démunis ou avons-nous une boussole? Dieu nous a-t-il laissé à notre conseil sans nous éclairer sur la direction à prendre? Ou bien nous a-t-il laissé des balises pour que nous ne nous perdions pas en chemin? En fait, Dieu nous aime à la folie. Donc c'est évident qu'il ne nous a pas laissés comme des petits enfants perdus dans une forêt. Il a posé des balises sur le chemin de notre humanité et sur le chemin du ciel. Encore faut-il accepter de recevoir de lui ces indications lumineuses qui éclairent notre conscience comme des phares dans la nuit. Et en guise de boussole pour notre vie, et je dirais même d'antidote au relativisme ambiant, nous avons justement cette réalité de la loi naturelle qui est comme un phare pour nous guider dans nos choix. Car en fait, la grande question morale de notre vie, c'est « Que dois-je faire ?» C'est la question du jeune homme riche à Jésus. « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» C'est la question des foules, des soldats, des publicains à Jean-Baptiste. « Que nous faut-il donc faire ?» C'est la question de tout homme, en fait. Selon quels critères vais-je conduire ma vie pour que ma vie soit belle, droite, accomplie et atteigne ce pour quoi je suis fait, à savoir la béatitude éternelle? Alors nous, en tant que chrétiens, nous avons reçu par révélation la grâce de la foi et la connaissance des préceptes évangéliques. Il suffit de relire le sermon sur la montagne dans Matthieu, chapitre 5 à 7, pour nous aider à bien agir. Cela veut-il dire que nous serions les seuls capables à nous conduire d'une manière droite? Non, bien sûr. Tout homme est capable du bien, et ceci précisément en vertu de la loi naturelle présente dans le cœur de tout homme. Et c'est justement cette loi naturelle, que chacun peut découvrir par sa raison, qui peut rendre possible une éthique universelle. Chacun n'a pas sa petite morale dans son coin. En fait, on s'aperçoit qu'on a un même socle, parce qu'on a cette même loi naturelle dans nos cœurs. Alors regardons de plus près cette loi naturelle. D'abord son existence. Qu'est-ce qui nous permet de dire qu'elle existe? Eh bien tout d'abord la parole de Dieu. Saint Paul affirme très clairement l'existence d'une loi morale non écrite, inscrite dans les cœurs, et qui permet de discerner par soi-même le bien et le mal. Dans la lettre aux Romains au chapitre 2, nous lisons « Quand des païens privés de la loi, c'est-à-dire la loi mosaïque, accomplissent naturellement les prescriptions de la loi. Ces hommes, sans posséder la loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, à preuve le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. » Donc même les païens portent un jugement moral ce qui veut dire qu'ils ont des critères intérieurs de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous n'avons pas à nous étonner de cela, dans la mesure où nous sommes tous créés par Dieu à son image, dotés par lui d'une âme spirituelle, intrinsèquement faite pour le bien. Si la grâce nous est donnée par le mystère de la rédemption, la loi naturelle nous est donnée du fait du mystère de la création. En tant que créés par Dieu à son image, nous avons tous en nous cette espèce de sens moral originel. D'ailleurs, nous pouvons constater la réalité de cette loi naturelle dans toutes les cultures et civilisations. Dans les diverses cultures, les hommes ont progressivement élaboré et développé des traditions de sagesse, souvent de nature religieuse, qui véhiculent un idéal d'humanité, qui favorise l'épanouissement de la vie personnelle et communautaire. Ces traditions peuvent varier beaucoup. Cependant, elles témoignent de l'existence d'un patrimoine de valeurs morales commun à tous les hommes. Par exemple, la règle d'or. Qu'est-ce qu'on appelle la règle d'or? Eh bien, c'est « ne fais à personne ce que tu n'aimerais pas subir ». On retrouve ça dans le livre de Tobie au chapitre 4, verset 15. Eh bien, cette règle d'or, elle se retrouve, sous une forme ou sous une autre, dans la plupart des traditions de sagesse. D'autre part, ces traditions s'accordent sur le fait que les grandes règles éthiques valent universellement pour chaque individu et pour tous les peuples. En outre, elles reconnaissent que ces comportements moraux universels trouvent leur origine dans la nature même de l'homme. L'homme, en tant qu'homme, doit se comporter de telle ou telle façon, s'il veut rester un homme, s'il ne veut pas être traité de brute, de bête ou d'autre chose. Je vous donne quelques exemples de cette règle d'or ou de cette loi morale universelle. Dans les traditions hindoues, par exemple, dans les textes sacrés de leur tradition, on trouve cette fameuse règle d'or écrite vers 200 ou 100 avant Jésus-Christ. Je te dirai ce qu'est l'essence du plus grand bien de l'être humain. L'homme qui pratique la religion de la non-nuisance universelle acquiert le plus grand bien. Cet homme qui se maîtrise dans les trois passions, la convoitise, la colère, l'avarice, y renonçant par rapport aux êtres, acquiert le succès. Cet homme qui considère toutes les créatures comme son soi-même et les traite comme son propre soi, déposant la verge punitive et dominant complètement sa colère, celui-là s'assurera l'obtention du bonheur. On ne fera pas à autrui ce que l'on considère nuisible pour soi-même. C'est en bref la règle de la vertu. Voyez comme nous, notre tradition biblique est proche de cette tradition-là, hindoue. Dans le bouddhisme, au plan éthique, les actions favorables peuvent se résumer dans les 5 préceptes suivants. Premièrement, ne pas nuire aux êtres vivants ni retirer la vie. Deuxièmement, ne pas prendre ce qui n'est pas donné. Troisièmement, ne pas avoir une conduite sexuelle incorrecte. Quatrièmement, ne pas user de paroles fausses ou mensongères. Cinquièmement, ne pas ingérer de produits intoxicants diminuant la maîtrise de soi. Donc là encore, nous avons la promotion d'un altruisme profond qui se traduit concrètement par une attitude délibérée de non-violence. Ça rejoint la règle d'or. Dans la civilisation chinoise, nous avons le taoïsme, où l'enjeu est la recherche d'une harmonie avec la nature, l'équilibre du yin et du yang. Confucius, donc c'était vers 551-479 avant Jésus-Christ, prône lui une éthique de la juste mesure pour insérer l'homme dans l'ordre naturel, avec un idéal de maîtrise de soi et de bienveillance pour autrui. Je le cite, « Mansuétude, n'est-ce pas là le maître mot? Ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. » C'est un extrait des entretiens de Confucius. Voyez comme c'est proche de la règle d'or que nous avons nous aussi dans la Bible. Dans les traditions africaines, la réalité fondamentale est la vie elle-même. Elle est le bien le plus précieux et l'idéal de l'homme consiste à vivre non seulement à l'abri des soucis jusqu'à la vieillesse, mais avant tout à rester même après la mort une force vitale continuellement renforcée et vivifiée dans et par sa progéniture. Donc la mission qui revient à tout homme, c'est d'assurer la victoire de la vie sur la mort. Et donc tous les actes qui visent à conserver, protéger, épanouir, augmenter la vie seront déclarés bons. Et tous ceux qui sont préjudiciables à la vie seront réputés mauvais. Dans l'islam, nous avons la loi islamique indissociablement communautaire, morale et religieuse. Et cette loi est comprise comme une loi donnée directement par Dieu. L'éthique musulmane est donc fondamentalement une morale de l'obéissance et de la soumission. Faire le bien, c'est obéir aux commandements. Faire le mal, c'est désobéir à ces commandements de Dieu. Et dans ces commandements, eh bien, on retrouve les grands éléments du patrimoine moral de l'humanité et du décalogue. Par exemple, je vous cite le Coran à la sourate 17. Ton Seigneur a décrété que vous n'adoreriez que lui. Il a prescrit la bonté à l'égard de vos pères et mères. Donne à tes proches parents ce qu'il aurait dû ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs. Ne tuez pas vos enfants. Évitez la fornication. Ne tuez pas l'homme que Dieu vous a interdit de tuer, sinon pour une juste raison. Ne touchez pas à la fortune de l'orphelin. Tenez vos engagements. Donnez une juste mesure quand vous mesurez. Là, nous avons vu la règle d'or présente dans les grandes traditions religieuses ou les traditions de sagesse. Regardons maintenant les sources gréco-romaines de la loi naturelle. L'idée qu'il existe un droit naturel antérieur aux déterminations juridiques positives se rencontre déjà dans la culture grecque classique. Vous connaissez tous, je pense, la figure exemplaire d'Antigone. Je rappelle brièvement l'histoire. Ses deux frères, Éthéocle et Polynice, se sont affrontés pour le pouvoir et se sont entretués. Polynice, le rebelle, est condamné à rester sans sépulture et être brûlé sur le bûcher. Mais pour satisfaire au devoir de la piété envers son frère mort, Antigone en appelle, contre l'interdiction de sépulture portée par le roi Créon, aux lois non écrites et immuables. Dans le livre de Sophocle, nous avons cet échange. Créon qui dit « Et ainsi tu as osé passer outre à mes lois ?» Et Antigone qui lui répond « Oui, car ce n'est pas Zeus qui les a proclamés, ni la justice qui habite avec les dieux d'en bas, ni lui ni elle ne les ont établis chez les hommes. Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Elles n'existent d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours. Personne ne sait quand elles sont apparues. Je ne devais pas, par crainte des volontés d'un homme, risquer que les dieux me châtient. » Donc vous voyez, il y a bien là la conscience de lois non écrites et immuables qui sont éternelles et qu'on ne peut enfreindre sans risquer de perdre ce qui fait notre humanité. Nous avons aussi Platon et Aristote. Tous les deux reprennent la distinction entre les lois qui ont leur origine dans une convention, une pure décision humaine, les lois positives, et celles qui sont valables par nature. Et il est évident que ces dernières sont au-dessus des lois conventionnelles, et même elles les précèdent et elles en sont la norme. Donc un droit positif valable, les lois de la cité, ne sera bon que s'il met en application le droit naturel, l'idée générale de la justice, de la probité, du bien. Cette loi naturelle, donc, si on la retrouve dans toutes les traditions religieuses et de sagesse, nous la voyons donc aussi dans la culture gréco-romaine, et nous pouvons aussi en voir une expression révélée à travers le décalogue. Le don de la loi au Sinaï, dont les 10 paroles, 10 commandements, est un élément essentiel et fondateur de l'expérience religieuse d'Israël. Cette loi d'alliance comporte des préceptes éthiques fondamentaux. Ils définissent la manière dont le peuple élu doit répondre par la sainteté de sa vie au choix de Dieu. On retrouve ce code de conduite bonne, c'est-à-dire conforme au bien, dans l'Exode au chapitre 20. Et Dieu prononça toutes les paroles que voici. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'invoqueras pas le nom du Seigneur ton Dieu pour le mal. Tu feras du Shabbat un mémorial, un jour sacré. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne. Rien de ce qui lui appartient. Il y a donc une manière bonne et sage de conduire sa vie. Et ce qui est étonnant, c'est que les comportements éthiques induits par les 10 commandements sont aussi valables pour les autres peuples. De sorte que Dieu demande des comptes aux nations étrangères qui violent la justice et le droit. De fait, Dieu avait aussi conclu en la personne de Noé une alliance avec la totalité du genre humain, qui impliquait en particulier le respect de la vie, l'interdit du meurtre, en Genèse chapitre 9. C'est ainsi qu'on voit dans le livre d'Amos, dans les deux premiers chapitres, plusieurs nations condamnées pour des crimes. Autrement dit, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse, considère que tous les hommes ont accès à cette loi naturelle qui commande de vivre selon la justice et le bien. Et celui qui s'y dérobe et commet des crimes fait le mal, sait qu'il fait le mal, en est responsable et encourt le châtiment divin. À travers tout ceci, plusieurs choses se dégagent. D'abord, l'examen des grandes traditions de sagesse morale montre que certains types de comportements humains sont reconnus dans la plupart des cultures comme exprimant une certaine excellence dans la manière pour l'homme de vivre et de réaliser son humanité. Les actes de courage, la patience dans les épreuves, la compassion pour les faibles, la modération dans l'usage des biens matériels, une attitude responsable vis-à-vis de l'environnement, le dévouement au bien commun. Tous ces comportements éthiques définissent les grandes lignes d'un idéal proprement moral d'une vie selon la nature, c'est-à-dire conforme à l'être profond du sujet humain. Par ailleurs, certains comportements sont universellement perçus comme objets de réprobation. Saint Jérôme disait « Qui ne sait que l'homicide, l'adultère, les vols et toute espèce de convoitise sont le mal ?» De ce fait que nous ne voudrions pas que cela nous fût fait à nous-mêmes. Si l'on ne savait pas que ces choses sont mauvaises, jamais on ne se plaindrait quand elles nous sont infligées. Et oui, si quelqu'un vous ment, vous vole, vous trompe, et que vous vous en apercevez, vous n'êtes pas content, et vous n'avez pas besoin de faire des études poussées en université pour sentir intérieurement que cela est mal et à réprouver. Car ces actes ou comportements apparaissent comme des atteintes à la dignité de la personne humaine et aux justes exigences de la vie en société. Il y a donc là un consensus, car tout le monde réagit de la même manière. On est donc justifié de voir à travers ce consensus une manifestation de ce qui, au-delà de la diversité des cultures, est l'humain dans l'être humain, c'est-à-dire la nature humaine. Qu'on soit africain, Américains, Chinois, Français, on appartient tous à cette unique nature humaine qui est naturellement portée au bien et blessée par le mal. Il y a donc comme un socle commun à l'humanité, une sorte de sens moral originel présent en tout homme. Et ce sens moral, l'homme le découvre à partir de ses inclinations les plus profondes. Quelque chose en lui qui lui indique le bien et le mal. Et qui le pousse à faire le bien et à éviter le mal. Ce sens moral originel manifeste que la personne humaine est intrinsèquement, c'est-à-dire dans son être même, dans sa nature d'être humain, ordonnée au bien, orientée intérieurement vers ce qui la finalise, c'est-à-dire vers ce qui lui permet de déployer tout ce qu'elle porte en germe, tout ce qui va l'accomplir dans sa dignité de personne humaine. Elle n'est donc pas sans boussole. Elle a en elle-même le sens du bien, du bon. En fait, c'est l'image en elle de Dieu qui seul est bon, comme nous le dit Jésus. Voyez, Dieu nous a laissés libres sur la mer de ce monde, mais il ne nous a pas laissés sans une boussole intérieure pour connaître ce vers quoi nous devons tendre si nous voulons nous accomplir et connaître le bonheur. Et cette boussole intérieure, eh bien, c'est la racine de ce qu'on appelle la loi naturelle. Elle existe donc bien, et elle renvoie à cette expérience morale fondamentale qui consiste à faire le bien. En effet, tout être humain qui accède à la conscience et à la responsabilité fait l'expérience d'un appel intérieur à accomplir le bien. Il découvre qu'il est fondamentalement un être moral, capable de percevoir en lui et d'exprimer cette interpellation qui se retrouve à l'intérieur de toutes les cultures. Il faut faire le bien et éviter le mal. Cet appel intérieur à faire le bien et à éviter le mal est le précepte originel de la loi morale qui fonde tous les autres préceptes de la loi naturelle. On pourrait dire que c'est la racine, le tronc. Et ce premier précepte est connu naturellement, immédiatement par la raison pratique, c'est-à-dire en vue de l'action. Avec ce principe, nous nous situons d'emblée dans le domaine de la moralité, parce que le bien qui s'impose ainsi à la personne est le bien moral. Et en recherchant ce bien moral, la personne contribue à l'accomplissement de sa nature, au-delà des impulsions de l'instinct ou de la recherche d'un plaisir particulier. Il faut bien comprendre que le bien moral n'est pas quelque chose qui m'est extérieur, qui me contraint de l'extérieur. En fait, le bien moral correspond au désir profond de la personne humaine, qui, comme tout être, tend spontanément, naturellement vers ce qui la réalise pleinement, vers ce qui lui permet d'atteindre la perfection qui lui est propre et le bonheur. Alors bien sûr, et malheureusement, la personne peut toujours se laisser entraîner par des désirs particuliers et choisir des faux biens ou poser des gestes qui vont à l'encontre du bien moral qu'elle perçoit. Elle peut refuser de se dépasser. Ça, c'est le signe de la liberté en nous qui a été affaiblie par le péché. Par exemple, elle peut préférer le faux plaisir de fumer du cannabis pour oublier les difficultés plutôt que de se prendre en main. Elle peut préférer un bien matériel pour elle-même, le dernier iPhone par exemple, qui ne comblera pas son cœur, à un bien spirituel qui pourrait la combler. C'est la personne qui, avec sa raison, doit examiner si ces biens particuliers peuvent s'intégrer à la réalisation de la personne. Est-ce qu'ils me font grandir dans mon humanité ou non ? Est-ce que le feuilleton que je regarde tous les soirs et dont je suis accro permet mon accomplissement ou non ? Si les biens particuliers que je vise me font grandir en humanité, alors ils seront jugés moralement bons. Sinon, ils seront moralement mauvais. Voyez, cette injonction qui habite tous les cœurs humains, « Évite le mal, fais ce qui est bien », qu'on retrouve tel quel d'ailleurs dans le psaume 34, est ce qui fait la grandeur de l'homme. D'où l'importance d'y être fidèle. Nous verrons la prochaine fois comment sont découverts les préceptes de la loi naturelle et leur contenu.